Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un puits, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Depuis l'aube, le Kelimutu déversait un flot de migrants qui se répandait avec lenteur sur le port de Pomako. Dans une belle confusion, les 1300 passagers s'efforçaient d'atteindre le terminal de bus, flaque de boue cadrée de containers, dans laquelle stationnait une longue file de taxis collectifs jaunes et une poignée de bus Decati. À voir ce débarcadère fluvial bétonné à la va-vite au cœur de la mangrove, submergé par cette marée humaine, il semblait invraisemblable qu'un bateau de dimension somme toute modeste ait pu contenir une telle cohue. Dans cette cohorte serrée de candidats à la fortune, on s'interpellait, on plaisantait, on protestait, on jurait, on priait, en une douzaine de langues outre l'indonésien. Un œil affûté y aurait reconnu des traits de Java, des Célèbes, des Moluques, du Timor occidental, de Tanimbar, de Kei, et d'autres archipels plus isolés encore. Une pluie soudaine interrompit momentanément le défilé, provoquant cris et rires. Ballots, paquetages et cartons grimpèrent sur les têtes, parapluies dérisoires qui bouchèrent toute visibilité. Le premier pied que Passou Trisno posa sur la terre ferme de Papouasie occidentale s'enfonça profondément dans une gadoue collante et en ressortit sans la tongue. Il s'arrêta pour la chercher, se fit bousculer et se rattrapa de justesse à une femme voilée qui lâcha une malédiction bataque. De peur de se faire piétiner, il renonça et conserva sa tongue veuve à la main. Le flux était ralenti par les vendeuses assises sur un parapet, des femmes à la peau noire, comme Passou Trisno n'en avait jamais vu, qui criaient à qui mieux mieux pour attirer l'attention sur leurs étals de sagou blanc, de noix d'arec, de feuilles de bétel, de poissons, de crustacés et autres produits de la mangrove disposés sur des bâches bleues usagées. Une gamine dont la tête était hérissée de tresses en piquant d'oursin plongea la main dans un seau et en retira un verre long comme l'avant-bras. À côté d'elle, un marmot tout nu et couvert de croûtes de boue séchée jouait avec une machette. Des hommes flânaient, pieds nus dans ce bourbier, l'arc en bandoulière, un vieux à la barbe hirsute lâcha un crachat rouge sang qui se dilua dans une flaque. Passou Trisno, petit et frêle de constitution, avait horreur de la foule. Il tenta de s'extraire au plus vite de ce cloaque. Poussant et bousculant, sans plus ni moins de manière que ses congénères, il traversa perpendiculairement, puis longea une enfilade de containers. Il prit une transversale entre deux rangées hautes comme de petits immeubles et tomba nez à nez avec une truie fouillant un tas de détritus. Écœuré, il réintégra le cortège et se résigna à avancer à la cadence générale. Quand il parvint à prendre place dans un taxi jaune dont le pare-soleil certifié « God on our side », il ferma les yeux de soulagement. Il était pieds nus, épuisé, malodorant. Il rêvait d'une douche, d'un lit et de jours meilleurs.
Salut Nicolas, merci pour cette lecture de ce premier chapitre donc de Timika, le bouquin que tu as écrit il y a peu de temps, enfin en tout cas qui est sorti il y a peu de temps aux éditions Anacarsis, c'est bien ça. Merci d'être avec nous donc pour cette émission de Vacarme en Union. On est très content de t'avoir là pour présenter ce bouquin. On t'a invité à Dijon parce que finalement on te connaît un peu. Tu étais passé aux tanneries il y a quelques années puisque tu as écrit un bouquin qui s'appelle Le Samovar et qui prenait place dont l'intrigue se déroulait dans les milieux squats à l'intérieur d'un squat. Et puis là, il y a quelques temps, en flânant dans notre librairie préférée de Dijon, sur les étals, on a vu ce livre, la Timica, Wasten Papou, et avec ton nom, et tout d'un coup on s'est dit, mais bon sang, il faut qu'on présente ça à nouveau aux tanneries, et ce qu'on a fait là cette semaine, et voilà. C'est un peu pour ça qu'on t'invitait aujourd'hui.
Eh ben oui, c'est avec grand plaisir que je reviens aux tanneries. Donc je connaissais pas les nouveaux locaux, et effectivement j'étais venu il y a, ça date de 6-7 ans, je sais plus exactement, et ça a été un très beau moment, assez enthousiasmant. Donc je reviens avec plaisir pour parler d'un autre bouquin qui est Changement de décor. Hein. Je suis passé des squats à la Papouasie.
À la Papouasie, donc. Ouais, c'est la Papouasie occidentale dont tu parles dans ce bouquin-là. Comment t'en es venu à te dire que t'allais écrire sur cet endroit du monde que finalement on connaît assez peu?
Juste un peu pour préciser, là, donc là, il y a l'île de Nouvelle-Guinée là, qui est au nord de l'Australie, qui est coupée en deux. La partie à laquelle je me suis intéressé, c'est la partie occidentale, qui est une province indonésienne, plutôt occupée, un territoire occupé par l'Indonésie, alors que la moitié est est un état indépendant, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, donc là, on est en Indonésie. Je m'y suis intéressé parce que j'ai habité quelques années et voyagé aussi en Indonésie. Et puis j'ai entendu un peu parler de ce qui se passait très vaguement en Papouasie, hein, qui est quand même un des territoires assez chauds en Indonésie. Hein, il y en a quelques-uns comme ça. Et sans vraiment savoir ce qui s'y passait, je savais qu'il y avait une mine d'or, qui est en fait la plus grande mine d'or du monde. Je l'ai découvert après. Troisième de cuivre, ça, c'est dans les montagnes, en altitude. Et puis, quelques années après, en étant de retour en France, où j'ai appris qu'il y avait eu une grève à cette mine qui est gérée par une compagnie américaine, Freeport. Et à cette occasion-là, j'ai fait un peu de recherche et j'ai compris ce qui se jouait là-bas et qui est vraiment très préoccupant. Hein. Les peuples papous sont extrêmement menacés pour tout un tas de raisons, on en prendra le temps de développer. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a donné envie d'aller voir plus près. Et donc Timica, c'est le nom de la ville qui s'est développée dans la plaine pour les besoins de la mine, hein, comme base arrière, puis qui maintenant attire beaucoup de monde, parce qu'il y a comme un Eldorado, hein, qui s'est créé, parce qu'il y a moyen de gagner de l'argent. Sinon de faire fortune, au moins de gagner plus d'argent que dans d'autres coins d'Indonésie. Donc ouais, ça attire beaucoup de monde.
Et c'est ça finalement que vient chercher Pasutrisno, dont tu viens de raconter un peu l'arrivée là, sur cette île, enfin, dans cette ville. Lui-même, il est cuisinier et va venir tenter, donc on le suit tout au long du bouquin. C'est un des personnages du livre qu'on va suivre tout au long de son arrivée, puis de son retour. Il repart à un moment. C'est un des migrants dont tu parles.
Voilà, c'est ça. Lui, il est javanais, connaît, comme beaucoup de javanais, des difficultés à s'en sortir. Hein. C'est globalement assez pauvre. Donc, il a sacrifié beaucoup pour venir faire fortune en Papouasie. Et voilà, ça va être un peu son cheminement et sa découverte. Il faut savoir que la Papouasie, entre les Papous et les Indonésiens, il n'y a à peu près rien en commun. Hein. Que ce soit déjà les origines ethniques,
ouais.
Les Indonésiens, c'est quand même plutôt asiatique. Ils ont les cheveux raides, notamment. Hein. C'est comme ça que les appellent parfois les Papous, les cheveux raides. Les Papous sont mélanésiens, donc ils ont la peau plus noire, les cheveux crépus. Hein. On pourrait penser qu'on est en Afrique. Hein, ils ont pas non plus la même religion. Les Indonésiens, en grande majorité, sont musulmans. Les Papous sont chrétiens, soit protestants, soit catholiques, ou évangélistes aussi. Et puis beaucoup de choses les séparent, et là notamment ce cochon qui, sur lequel tombe Passo Trisno, c'est un des points, le cochon étant considéré de la façon dont on sait par les musulmans, hein, y a un certain dégoût par rapport à cet animal de répulsion, tandis que pour les papous c'est vraiment c'est culturel, le cochon, il n'y a pas de choses importantes de la vie qui ne soient pas accompagnées d'un repas de cochon, c'est vraiment un élément fondateur. Le cochon et la patate douce, on peut dire que c'est vraiment les ciments des peuples papous.
Et alors, ils sont plutôt d'obédience chrétienne parce que, en fait, ils ont été colonisés eux-mêmes par les Occidentaux et donc les Hollandais.
Voilà, donc dans la partie qui est maintenant Papouasie occidentale, c'était les Hollandais. De l'autre côté, c'était les Anglais. Et bah, évidemment, hein, comme toute colonisation, les missionnaires en avant-poste, l'armée, les commerçants, ce conflit-là très avif sur ce territoire est en fait un héritage d'une décolonisation ratée.
Comme toutes.
Comme un bon nombre, en tout cas, mais celle-là particulièrement. C'est-à-dire que les Hollandais ont perdu une guerre contre l'Indonésie qui a réussi à arracher son indépendance. Mais ils ont gardé sous le coude la Papouasie en disant ça n'a rien à voir avec le reste, ce qui n'est pas faux, mais à l'époque ça leur posait pas de problème. Et ils se sont mis en tête de faire accéder ce territoire à l'indépendance. Ça, c'était dans les années 60. En Papouasie, on y a cru très fort à cette indépendance. Donc il y a une petite génération, ça a été assez court, mais quand même sur une dizaine d'années, de gens qui ont accédé aux études, et puis il y a eu des projets de développement qui, enfin, les Hollandais ont fait ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, surtout pour emmerder l'Indonésie, en fait. Et puis, c'est une période de guerre froide, l'Indonésie penchait de plus en plus vers le bloc soviétique, donc les Américains ont dit, bon allez, stop, on arrête là, et donc les Hollandais ont bien été obligés de céder la Papouasie à l'Indonésie, ce qui a été entériné par un référendum d'autodétermination truqué, avalisé par l'ONU. Voilà. Donc, n'est même pas la Papouasie ne fait même pas partie des territoires à décoloniser.
Ouais, d'accord. Oui, c'est finalement un colonisateur qui lâche une colonie pour qu'un autre le reprenne. Quoi. C'est ça, c'est l'Indonésie qui s'est mis à coloniser cet espace. Ouais. Et donc, c'est effectivement ce que raconte ton livre, enfin, une partie de ce que raconte ton livre, ce conflit qu'il y a pour les Papous, pour ce peuple autochtone, vis-à-vis d'une forme d'envahisseur, de colon, quoi. Et alors, soit qui vient tenter sa chance là, mais soit qui vient carrément exploiter cette fameuse mine d'or dont tu parles là, qui est la plus grande mine d'or du monde. C'est quand la première exploitation? C'est dans les années...
Ça a commencé en fin des années 60, alors que la Papouasie n'était même pas officiellement, ne faisait pas encore officiellement partie de l'Indonésie. Freeport a été, dès le début, à l'origine... Ça va de pair avec la prise de pouvoir par Suharto, ce régime autoritaire qui s'est mis en place et qui avait besoin d'une caution un peu, parce que au passage ça s'est fait dans un bain de sang, hein, avec un massacre de communistes qui c'est entre 500 000 et 1 million de morts. Donc Suharto avait quand même besoin d'une caution et Freeport arrive à point nommé à ce moment-là pour justement... apporter ce qui manquait de respectabilité
internationale
à ce régime.
Ouais. Ouais, d'accord. Et c'est ce que tu dis donc tout au long du roman aussi, évidemment, les intérêts. Enfin, finalement, l'armée sert à favoriser l'exploitation de cette mine depuis toujours et encore maintenant. Il y a un entremêlement.
On retrouve des schémas classiques qui existent ailleurs dans le monde, hein, entre une compagnie minière occidentale, un régime corrompu, l'armée qui protège les infrastructures, les personnes, et puis des peuples autochtones dépossédés de leurs terres, expulsés, qui subissent des exactions. Et puis l'armée qui joue un rôle, un double jeu, hein, c'est-à-dire protège, mais en même temps se sert. Hein, y a un certain pillage de... l'armée va piquer du carburant, va piquer du matériel, le revend, utilise les camions, les hélicoptères, etc. Et en même temps, qui fomente des troubles en sous-main dès que Freeport veut un peu prendre ses distances, parce que l'armée indonésienne a quand même a pas mal de sang sur les mains, et quand ça a commencé un peu à faire du bruit ce qui se passait en Papouasie, Freeport a voulu prendre ses distances et là l'armée l'a rappelé à l'ordre, c'est-à-dire non, ça ne se fera pas sans nous. Donc l'armée protège, l'armée met en danger, voilà. Là, je parle de l'armée, mais il y a aussi la police qui est en jeu, et puis différentes factions dans la police et l'armée qui sont un peu en concurrence pour l'exploitation de tout ce qu'il y a à exploiter, hein, c'est-à-dire l'alcool, la prostitution, les camps d'orpaillage, parce qu'il y a beaucoup d'orpailleurs qui viennent chercher de l'or dans la rivière, ou autres ressources naturelles comme le bois, les espèces protégées, etc.
Voilà, et au milieu de ça se démènent les papous pour ne pas se faire complètement écraser les papous et les autres personnes finalement, parce qu'en fait tout le monde, toutes les personnes un peu qui viennent tenter leur chance là sont tous à la solde soit de la police, soit de l'armée, soit de Freeport quoi.
C'est... Alors les migrants qui viennent, il y a eu des programmes de migration, des programmes gouvernementaux qui se sont arrêtés. Déjà parce que ça ne fonctionnait pas très bien, et ensuite parce qu'il n'y a plus besoin. Les gens viennent d'eux-mêmes. Mmh. Hein, donc se payent le transport, et puis la ville s'accroît. Donc, ces personnes-là sont relativement en dehors du jeu, le subissent plutôt, effectivement. Pour ce qui est des communautés papoues, oui, elles sont sous pression, et donc il y a un mouvement d'opposition. Hein, l'OPM, l'Organisation de Libération de la Papouasie, hein, qui lutte contre l'occupation, faiblement armée, et puis à partir de camps dans la jungle. Et sinon, un mouvement d'opposition assez général. Hein. Globalement, tous les Papous veulent l'indépendance, ouais. Mais bon, ont tellement été réprimés et continuent à l'être que c'est quand même sérieusement muselé. La famille de Daniel exigeait réparation. Alphonse devait payer. Le cercueil et le cochon ne suffisaient pas. Il réclamait une somme exorbitante qu'Alphonse, seul, ne pourrait jamais réunir. Dût-il passer le restant de son existence à récolter du bois d'agar ou orpailler. Il se jouait là le énième épisode d'une rivalité ancestrale entre Dany, la tribu de Daniel, de Jeffrey et du vieil Isaac, et à Mungme, celle de Frankie, Maximus et du général Kelikwalik, à laquelle les Ndouga, comme Alphonse, étaient traditionnellement alliés. Les racines du conflit s'étendaient à plusieurs générations. Le dernier épisode datait de moins de 10 ans. Le champ de bataille était Kwamkilama, dans le haut du Kampung, entre le terrain de volley-ball et le poste de police. Alphonse avait participé à cette guerre. Il avait tout juste 15 ans. Il se souvenait de l'extrême tension les semaines précédant le conflit, la peur de la flèche, de la machette, de l'embuscade dans le noir, et le jour venu, l'excitation, les chants, les cris, et la ruée, l'arc à la main, hurlant vers l'ennemi, les tôles arrachées au toit servant de bouclier, le son des flèches en palmier noir qui filent et se figent dans un tronc, un mur, une cuisse, un dos, un cou, et puis les pleurs et les ululements. Le corps percé de flèches que l'on porte, un cousin, un voisin, un copain, que l'on transporte à l'hôpital, un hôpital pour chaque camp, pour éviter que la guerre se poursuive dans les couloirs, dans les chambres, dans la salle d'opération. Les cris, les hurlements, les représailles, le lendemain, et ainsi de suite. Angoisse, exaltation, fureur, douleur, chagrin, euphorie. Le décompte de semaine en semaine alourdi, jusqu'au dégoût, jusqu'à ce qu'on dise stop, ça suffit, et que l'on s'assoie ensemble pour demander pardon. Pardon pour les torts, pardon pour les blessés, pardon pour les morts, et discuter de la somme à verser en dédommagement et du nombre de cochons, condition du retour à la paix. La paix jusqu'à ce que. On remisait l'arc, on attrapait un wok, et on sautait dans un camion de l'armée, debout, serré, cramponné, destination 1050, où on passerait 4, 6, 8 semaines à tamiser les rejets de Freeport, afin d'accumuler en poussière d'or le montant de la dette. Tandis qu'à Kwamkilama, d'autres conflits impliquant d'autres tribus germaient, bourgeonnaient, éclataient pour une histoire de femmes, de cochons, de motos. Ainsi vivait Kwamkilama, le seul kampung de Timika exclusivement peuplé de papous, grand pourvoyeur de faits divers et de clichés macabres pour le radar Timika, qui se chargeait en retour d'entretenir au fil des chroniques la réputation exécrable de ce kampung auprès des migrants indonésiens. Les correspondants de guerre du radar, qui opéraient au zoom depuis l'habitacle climatisé d'une Toyota, omettaient cependant de rappeler que Kwamkilama avait été construit pour y reloger des familles agglutinées autour de Tembagapura, dans l'espoir de tirer profit de la proximité de la mine. Leurs baraques de fortune nuisaient au décor. Freeport avait chargé l'armée de les expédier dans la plaine, où une partie avait succombé au paludisme. Personne ne savait exactement combien de tribus coexistaient à Kwamkilama. Trop, c'était une certitude. Dans les montagnes, des vallées, des crêtes et des jours de marche séparaient les tribus ennemies. Elles étaient surtout occupées à tirer de ce rude milieu de quoi vivre.
Deuxième extrait donc de ce Timika que tu as écrit, Nicolas, et qui vient de paraître aux éditions Anacarsis. Cet extrait-là donc est un extrait de qui introduit ce personnage d'Alphonse. Alphonse, c'est donc un papou, à la différence de Passus Trisno. Voilà, on commence à, avec ce chapitre-là à s'immiscer un peu dans les fonctionnements des différentes tribus, et puis à la problématique de la relégation de ces tribus qui étaient à un moment dans les montagnes, et puis qui se font à un moment dégager parce que la mine va être exploitée, parce qu'ils sont agglutinés autour de cette mine pour essayer d'en tirer les quelques bénéfices qu'ils peuvent. Voilà, donc cette gestion des populations, tout ce que ça implique comme conflit, cette mise en camp complètement artificielle, et tout ce que ça implique pour des personnes qui essayent de à la fois faire face à ces nouvelles conditions de vie, faire face à des colons qui viennent détruire leurs anciennes conditions de vie, etc. etc. quoi.
Pour fixer un peu les idées, la Papouasie occidentale, c'est 250 tribus. Qui ont peut-être pas tous leur langue, mais parce que certaines sont proches, mais quand même des particularités propres à chacune. Du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est 750 au total sur toute cette île. Hein, c'est un millier de tribus différentes, un vivier de langues assez incroyable. Et donc un milieu assez rude. C'est donc recouvert de forêts en grande partie, même si... maintenant, ça déforeste beaucoup, des montagnes qui montent jusqu'à près de 5000 mètres. Il y a des glaciers en Papouasie. Et puis, voilà, un relief très... ce sont des montagnes jeunes, hein, donc on se déplace assez difficilement. Et en fait, Freeport, en arrivant, a bousculé quand même un équilibre qui, depuis, je crois, 12 000 ans qu'est peuplée cette île, un équilibre qui s'est établi avec de très nombreux conflits, des guerres tribales, etc. Mais quand même, Freeport a attiré effectivement tout un tas de gens qui déjà sont venus voir par pure curiosité hein, ce qui débarquait. C'était le premier contact avec l'Occident. Puis donc cet effet d'aimant là qu'a exercé Freeport a mis en contact des gens qui ne se côtoyaient pas auparavant. Et puis quand ça a commencé à devenir vraiment problématique autour de la mine, les personnes ont été déplacées de façon forcée pour les installer à Timika dans un quartier qui a été construit pour ses besoins et où se retrouvent des gens de la montagne, de la plaine, de tribus différentes, et avec tous les conflits qui existaient auparavant et qui se sont perpétués. Donc c'est effectivement, moi quand j'y étais, il y avait plusieurs guerres tribales qui étaient en cours de résolution, en cours de développement. Et
c'est effectivement ce qu'on... Il y a une des questions qui a été posée lors de la présentation qui disait, mais alors est-ce qu'il y a des ententes entre les deux Papouasies, Nouvelle-Guinée occidentale? Est-ce que les tribus... Enfin voilà, comment les Papous répondent? Est-ce qu'il y a des fronts communs? Est-ce que... Comment ils répondent à la question effectivement de la colonisation? Est-ce que ça se trouve? Est-ce que ça, ça s'organise? Et finalement, peut-être que l'OPM, l'Organisation de Libération... de la Papouasie, qui a eu ses heures de gloire, si on peut le dire, dans les années 70, est-ce que c'était pas ça, c'est-à-dire une tentative de forme d'entente intertribale?
Oui, les Papous essayent de s'entendre pour lutter. C'est la langue indonésienne et la résistance à l'occupant, hein, qui cimente un peu ces différentes tribus. Pour ce qui concerne la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il y a une fraternité évidente. Après, un soutien moral, mais...
Pas de pratique de lutte collective hein, ou...
Non, déjà, ils sont séparés. Enfin, il y a oui. Quand même une frontière. Hein, c'est quand même difficile de circuler. C'est pas complètement libre. Et ensuite, le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée ne s'opposera jamais à l'Indonésie, qui est bien trop puissante. Mmh. Donc, c'est plutôt un soutien moral et une certaine base arrière. Sinon, effectivement, l'OPM a réussi à faire abstraction de ces antagonismes tribaux pour parvenir à lutter contre l'Indonésie. Disons que le mode de lutte a évolué au cours des années. Les représailles ont été tellement violentes qu'ils ont globalement déposé les armes. Et pour maintenant plus porter ça sur le terrain politique... ou devant les tribunaux pour essayer au moins de faire valoir leurs droits.
Alors c'est ce que tu racontais finalement là dans la sortie de ce bouquin, d'une certaine manière. Donc avec Anacharsis, vous avez démarché tout un tas de journalistes français que d'une certaine manière c'était aussi en Papouasie un peu attendu. Enfin en tout cas on t'a remis ce que tu nous racontais lors de la rencontre au Tannery. On t'a remis des documents en disant voilà va porter cette parole, va transmettre, va dire ce qui se passe ici. Et il y a eu aucun écho ce que tu racontais de votre envoi, de votre tentative de faire résonner ton bouquin, ce qu'il dénonce, puisque finalement c'est pas seulement une fiction, on l'aura compris, mais le cadre du livre s'inscrit aussi dans une forme de dénonciation de ce qui se passe là-bas, politique quoi, et puis d'une tentative de faire se saisir de ces enjeux-là, et il y a eu peu de réponses quoi.
Bah, c'est vrai que le sujet, on peut pas dire qu'il intéresse beaucoup, il est très rarement à l'actualité, il faut vraiment qu'il se passe des choses. C'est toujours un peu dans l'exceptionnel hein, où on finit de parler de ces territoires un peu oubliés. Il y a des endroits où on en parle quand même un petit peu plus. Il faut dire qu'il y a peu de Papous en France aussi. Hein. Il n'y a pas de communauté en exil, contrairement aux Pays-Bas ou en Angleterre, où effectivement il y a plus de personnes qui seraient à même aussi de porter ça. Non, on ne peut pas dire que c'est... que ça ait beaucoup... Oui, là, je pense que mon bouquin ne va pas changer radicalement la donne, mais en tout cas, c'est sûr qu'il a été accueilli avec beaucoup... Enfin, déjà, moi, quand j'étais là-bas et que je parlais de ce projet, il y a eu beaucoup d'enthousiasme là-dessus. Et, ouais. Et des gens qui, effectivement, me disaient « Mais il faut que ça sache ce qui se passe, il faut que tu en parles dans ton pays. » C'est assez compliqué. Hein. Bon, pourtant, il y a quand même une proximité avec la Nouvelle-Calédonie. Hein. Ce sont des peuples mélanésiens. Mais je pense que c'est assez compliqué de faire un parallèle en France où on ne reconnaît pas forcément une colonisation qui ne dit plus son nom en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, ces peuples sont des peuples frères. Hein. Ils sont, enfin, cousins, disons.
Kisah seorang minta-minta yang hampir-hampir meninggalkan.
satu pinggiran jalan yang sepi. Perut kelaparan terasa nyeri. Terdengar tangisan merana. Si buyung yang selalu dibawa-bawa. Yang tak pernah kena akan bapaknya. Hanya satu kasih sayang ibunda.
Paroissiens sortirent leurs missels de leur étui en cuir et les ouvrirent. Le pasteur fit une courte lecture, puis quittant le pupitre, il se mit à fustiger ceux qui, au lieu de marcher dans les pas de Jésus-Christ notre Sauveur, menaient une vie lamentable de débauche. Ces êtres de chair vendus au pouvoir du péché, épître aux Romains, chapitre 7, verset 14. Il ne regardait personne en particulier, pourtant Johnny avait l'impression qu'il ne s'adressait qu'à lui. Il se recroquevillait de honte, persuadé que tous le regardaient, que tous les regards convergeaient sur son cocard et sa lèvre fendue. « Fuyez la fornication !» tonna le pasteur. « Car celui qui fornique pêche contre son propre corps. » Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Les paroles du pasteur aiguillonnaient douloureusement la conscience de Johnny. Il était accablé de culpabilité. Il était jeune et robuste. Il pouvait pelleter, laver et trier le sable à la bâtée courbée dans la rivière pendant un mois sans interruption. Il aimait son pays et Jésus plus que tout. Il vénérait également Chuck Norris, son modèle et son guide face à l'ennemi ou à l'injustice. Il voyait sa communauté souffrir, ses frères et sœurs maltraités et méprisés, laissés sur le bord de la route. Il était bien conscient de l'urgence, mais au lieu de lutter, il se laissait entraîner dans le vice et ne pensait qu'à lui-même. Pourquoi était-il infoutu de s'arrêter de boire, d'aller aux filles et de se bagarrer? Pourquoi avait-il arrêté l'école avant le collège? Il n'était pas trop bête, quoi qu'en pensent les gens, et il existait des bourses pour les jeunes papous désireux de s'instruire. Au lieu de végéter à Kwamkilama, il aurait peut-être pu aller étudier en Australie comme sa sœur Lina. Peut-être pas, à la réflexion. Lina était sage et intelligente, tandis que lui, cela lui demandait trop d'efforts de rester assis et concentré. Il préférait l'action. Il aurait pu, sinon, entrer en résistance comme son frère Alphonse. Il avait voulu le suivre à l'époque, s'engager dans la lutte contre l'Indonésie, défendre son peuple et risquer de se faire abattre d'une balle dans le dos ou torturer au poste de police 1032, ou dans un container, nuque brisée, langue coupée. Toujours est-il que cette situation ne pouvait durer plus longtemps. Il était une charge pour sa mère vieillissante, à qui il causait beaucoup de tracas. Il n'avait même pas cherché à venir en aide à son frère Alphonse, qui avait des ennuis en ce moment. Celui-ci avait quitté précipitamment Kwamkilama, quelques jours avant son retour de 1050, et depuis, Johnny ignorait où il se trouvait. Oui, cela ne pouvait plus durer. « Car sachez-le bien, tempêtait le pasteur, aucun fornicateur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. » Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 5. Voilà, un troisième passage de ce livre Timica. Alors donc, c'est la religion protestante qui nous était contée là.
Là, c'est plutôt évangéliste. Les papous sont plutôt protestant, mais il y a quand même une bonne partie qui est catholique. Et puis, depuis quelques dizaines d'années, une dizaine d'années, il y a un foisonnement d'églises évangélistes qui ont apparu. Il y a une certaine fluidité, hein, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement changer d'église.
Passer de l'un à l'autre. Ouais.
Mais en tout cas, la religion, Jésus, quand même, c'est quelque chose d'important, de très présent. Et c'est un Jésus quotidien du présent plutôt qu'une abstraction. Voilà, donc il y a des personnages, religieux qui jouent un rôle, notamment pour essayer de maintenir des communautés qui partent quand même avec la déculturation, avec tout ce qui leur arrive dessus. Hein, les communautés sont quand même mises à mal, donc l'Église est quand même
joue un rôle.
Continue à maintenir. Et puis il y a des communautés aussi. Moi, j'ai résidé chez des franciscains et qui ont aussi un rôle politique. Ça doit être souligné parce que c'est quand même assez courageux. Les franciscains éditent chaque année un petit recueil des atteintes aux droits humains qui sont commises sur le territoire. C'est assez courageux parce que l'Indonésie, évidemment, ne voit pas ça d'un bon œil, mais ils continuent à le faire et à résister à leur façon, à soutenir les populations dans la difficulté. Voilà, donc en tout cas, la religion, c'est un élément important.
Important, oui. Là, Johnny, c'est le frère d'Alphonse, donc on l'a compris comme c'est dit. Ce qui est assez, moi, j'ai trouvé plaisant dans ce livre-là, c'est que on a plein d'entrées, quoi. Il y a plein de personnages qu'on suit au fur et à mesure. C'est une espèce de photo prise sur un an, quoi, un an donné à voir. De la vie de tout un tas de gens qui ont la même particularité que d'habiter cette ville Timika ou alors ou d'aller travailler, enfin ou de travailler pour Freeport ou pas très loin ou pour les écoles, l'école internationale de Freeport. Et c'est assez jouissif quand même de suivre le cheminement de tous ces personnages, évidemment avec ce que ça a de si compliqué, de dramatique, enfin dans leur propre histoire. Finalement, on se retrouve assez fort attaché à vivre aussi avec eux, ce qui les lie les uns aux autres. C'est une écriture qui est assez assez belle pour ça, quoi.
Là, dans cet extrait, on voit en fait, c'est une fratrie, hein, Alphonse qui lutte, qui reprend les armes, Johnny qui est un peu le bon à rien, hein, c'est il va orpailler dans la rivière pour gagner de l'argent, et puis les circonstances font que malgré tous ses projets de donner de l'argent à sa mère, de réparer la maison, d'acheter un cochon, etc., tout ça part en fumée parce que juste il fait une virée avec ses copains et puis il finit aussi fauché qu'avant. Et puis il y a la sœur Lina qui est partie étudier en Australie. Et c'est un peu, effectivement, hein, il y a le côté très aigu de l'acculturation, hein, donc tout un tas de jeunes qui n'ont pas connu autre chose que Freeport. Hein, c'est ouais. Quand même maintenant tellement ancré, donc d'une vie citadine, et puis tout ce qui va avec. Hein, c'est-à-dire que l'alcool, qui est officiellement interdit, est quand même largement distribué. Il y a beaucoup de prostitution aussi. Et puis, tout un tas de jeunes qui n'ont pas vraiment de repères, pas vraiment de perspectives, et puis qui traînent, et puis qui se laissent vivre.
Voilà. Ouais.
Donc Johnny, c'est ça, mais en même temps dans le côté joyeux, quoi, parce qu'il fait la fête. Et puis même dans ces camps d'orpailleurs qui sont des endroits assez violents, il y a quand même une excitation. Moi, j'ai lu ça, hein, c'est des endroits où j'ai pas forcément eu accès, mais j'ai perçu ça chez... des jeunes à qui j'ai discuté, hein, quand ils parlent des camps et de l'or, des filles, etc. Bon, il y a une petite lueur quand même dans l'œil, hein, qui montre que c'est pas qu'une vie pénible, hein, ils en tirent du plaisir aussi.
C'est un peu ça aussi, c'est pour ça que tu as appelé ça Western Papou, finalement, enfin le sous-titre de Timika. Ça raconte le drame de cette ruée vers l'or. Et en même temps, tout ce que ça implique de vie, de rencontre, de mélange, et de surprise et de plaisir dans tout ça.
Western au départ, parce que c'est vraiment pour moi l'or, la mine d'or, les populations autochtones réprimées, la prostitution, les armes, tout ça c'est un peu quand même l'univers du Far West, avec des endroits qui là vraiment correspondent tellement aux images qu'on a pu avoir, hein. Il y a un petit complexe de prostitution à 10 km de Timika où c'est vraiment... deux rues boueuses, des petits établissements, c'est vraiment le saloon. Voilà, donc c'est pas très compliqué de transposer un imaginaire qu'on a déjà. Et puis les logiques, que ce soit l'Ouest américain à la fin du 19e ou la Papouasie au 21e siècle, il y a quand même des logiques qui sont fortement semblables.
Tu veux dire que les États-Unis exportent finalement, étendent le Far West dans l'exportation de leur entreprise?
Oui, mais je pense que c'est globalement ce qu'on appelle maintenant l'extractivisme, hein, c'est-à-dire l'exploitation des ressources naturelles quand elles sont menées à une grande échelle par une compagnie étrangère. On reproduit à peu près partout ces schémas-là, mais c'est valide aussi en Europe et même en France. Hein. Il y a un renouveau du secteur minier et des projets d'ouverture ou de réouverture de mines. Et bon, évidemment, les contextes sont très différents, mais il y a quand même de grandes logiques qui sont en œuvre avec toujours la force publique qui défend des projets privés et se font souvent, le plus souvent, au détriment des populations locales. Ouais.
Voilà donc Chichi Faramida, c'est ça?
Chichi Faramida.
Ah, ouais. Faramida, voilà, ils ont mis un P, je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce genre de musique?
Ça, c'est le dangdut, c'est la pop indonésienne très populaire, un peu façon Bollywood. et qui vraiment c'est les stars de Dangdut, c'est voilà les grandes stars, c'est pas le cinéma, hein, c'est vraiment les chanteuses de Dangdut. Et ça c'est partout en Indonésie, on écoute du Dangdut, c'est une musique populaire qui plaît dans les villages, c'est vraiment une musique populaire, généralement les classes sociales plus élevées méprise un peu, et bon, chez les expatriés, alors là c'est carrément du rejet. Moi j'aime bien, je trouve c'est kitsch, c'est joyeux, c'est vraiment ça parle d'amour, hein, essentiellement. Et ça s'écoute aussi en Papouasie, et c'est surtout dans les karaokés où on chante beaucoup. Une des sorties à Timika, c'est le karaoké.
C'est d'aller au karaoké,
voilà,
ouais.
Où c'est pas du tout convivial, hein. C'est-à-dire on arrive en groupe, on loue un box où il y a un écran et puis un catalogue, et puis on met des chansons, on chante ensemble, et voilà.
Et revenons alors à l'activité minière, extractiviste, tu disais. Tu voulais parler un peu des projets locaux, enfin, en France, portés par la France, sur ces... Il y a une forme de renouveau, quoi.
Bah oui, là, avec... depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, il y a vraiment un renouveau du secteur minier. Hein. Il y avait très peu de mines encore actives en France. Et là, ça repart. En Guyane, là, c'est peut-être parmi les plus gros projets. Le plus gros projet, c'est Montagne d'Or. Hein. Donc, on a quand même parlé dans les médias, avec une forte opposition, mais en même temps des forces qui poussent dans le sens de l'ouverture de la mine, qui risquent de l'emporter, avec vraiment des... C'est très préoccupant au niveau environnemental, au niveau social aussi.
Donc là, c'est le même projet finalement que ce que peut porter Freeport en Papouasie, c'est-à-dire l'exploitation par concassage de la montagne de filons de mine d'or.
Voilà, alors les techniques sont différentes.
D'accord.
Disons que les produits, les merdes qu'ils emploient sont pas forcément les mêmes, mais au final, c'est quand même toujours des impacts. Globalement, on ne peut pas exploiter de façon propre, hein, parce que les meilleurs filons ont déjà été exploités par le passé, donc maintenant, il reste des endroits où il n'y a plus qu'une teneur nettement plus faible en minerai. Donc, il faut déplacer une quantité de roche importante, et rien que ça, sortir de la roche, et donc ça forme des piles absolument énormes, et au contact de l'air et de la pluie, ben ça provoque un ruissellement qui est toxique, qui contient des métaux. Donc ça, c'est en Guyane, c'est peut-être le plus gros projet, mais sinon en métropole, il y a aussi quelques projets, soit au stade de l'exploration, soit des réouvertures de mines. Et là, je pense particulièrement en Ariège, une ancienne mine de tungstène, la mine de Salo, qui avait été fermée dans les années 80, parce que soi-disant, le cours du tungstène avait baissé, c'était plus rentable. Bon, en fait, il s'avère qu'elle contenait aussi beaucoup d'amiante et que les conséquences sanitaires devenaient difficiles à dissimuler.
À planquer, ouais.
Mais ça pourrait bien, il y a en tout cas un permis d'exploitation qui a été déposé.
Eh oui.
Il y a une forte opposition locale, mais comme toujours, c'est aussi un facteur de dissension, hein, parce qu'il y a les partisans de la mine qui disent les emplois créent, alors qu'en fait des emplois ça en crée très peu, et puis par contre...
Beaucoup de saloperies par contre.
Voilà.
Et donc tu nous invites à venir à Salo, c'est ça, hein, lutter contre ce projet de mine, quoi.
Ah, je crois qu'ils ont bien besoin de soutien en tout cas.
Ok, et écoute, on viendra. Merci Nicolas pour cette heure de présentation, et puis pour ce bouquin, surtout qu'on trouve donc dans toutes les bonnes librairies finalement, surtout à bientôt.
Merci à toi et à bientôt.
Ouais, salut.